1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Auditrice, bonjour, tu écoutes SLP, salut les PD, et il y a du monde autour de la table aujourd'hui. Bonjour Paola.
Salut tout le monde, une revenante,
une deuxième revenante, Annie, comment
c'est
vas-tu?
C'est la soirée des vieilles.
C'est la soirée des vieilles, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, il y a des jeunes aussi hein, autour de, dans le studio de Divergence, Ariane.
Oui c'est moi.
Défends ta cause.
Oui c'est moi et nous passons aussi sur RPH.
C'est vrai. Mais j'ai pas dit qu'on était sur Divergence.
T'as dit qu'on était dans le studio de Divergence.
C'est vrai.
Alors chaque fois que tu vas dire Divergence, je vais dire oui et RPH.
Tu as raison. Salut Ghislain.
Bonjour, moi je fais un entre-deux.
Tu fais un entre-deux, c'est-à-dire?
Oui, moi j'aime bien ça.
Ah, au niveau de l'âge,
au niveau
dire.
De l'âge.
D'accord.
Au niveau, plein de niveaux.
Tu es un gros dégoûtant.
On va tout savoir. Alors, on
et
entame...
Et bonjour Philippe quand même.
Oui, quand même. On entame aujourd'hui même un cycle Virginie Despentes. On va faire... 4 émissions autour d'elle, puisque comme on l'a déjà dit, je crois, précédemment, elle est rentrée dans le club de nos chouchous. C'est toi, Ariane, qui l'a fait rentrer.
Ah oui, parce que moi,
tu as
chouchous à fond, quoi. Donc je suis super content
ouais,
de les avoir convertis. C'est trop la classe.
Alors, pourquoi tu as souhaité qu'on fasse autant d'émissions sur elle?
Je tiens à rectifier de suite, je n'ai pas souhaité qu'on fasse autant d'émissions sur elle. Je vous ai apporté la matière et vous avez jugé qu'il y avait de quoi faire.
Ouais, c'est vrai.
Tout on un va mois dire comme sur ça. Virginie.
Bon, en même temps, on n'avait pas trop le choix, je crois.
Bon, et c'est pour ça qu'on a fait appel du coup à Annie et Paola, lectrices devant l'Éternel, pour venir nous accompagner dans cette escapade autour de Virginie Despentes. Vous êtes contentes d'être là, toutes les deux?
Moi, ça m'est égal, donc je suis venue parce qu'on m'a demandé, dans le style, quand on m'appelle peau de chambre, je sors de sous le lit. Et là, je suis sortie du lit avec Virginie Despentes, donc je ne lis que des grands auteurs dont j'ai été extrêmement déçue, bien sûr. Par contre, j'ai fait connaissance d'une personne très intéressante, outre la littérature.
D'accord. Paola ?
Oh ben, ça réveille Despentes, c'est ça l'essentiel, ça réveille.
Bon, bah, l'idée, c'est peut-être de commencer tout simplement par une sorte de bio. Je pense qu'on va faire cette bio sur deux émissions. Donc vous êtes obligés de suivre au moins deux fois une demi-heure de SLP.
Sinon vous ne savez pas comment ça finit sa bio.
Sinon vous ne savez pas comment ça finit.
À la fin elle meurt ou elle se marie, on ne sait pas.
En plus elle n'est pas encore morte.
Elle est mariée, je ne sais pas.
Non, ce serait un peu compliqué.
Racontez pas la fin, les filles.
Jingle et on commence tout de suite derrière.
SLP, la émission.
Quoi, Annie?
Tu m'y attendais pas.
Annie, pouf.
Plus c'est bête, plus j'aime.
D'accord, bah oui, tu vas être servie alors. Donc, Virginie Despentes, née le 13 juin 1969 à Nancy, est fille de postier syndicaliste. Une adolescence rebelle, un internement psychiatrique, un viol qu'elle qualifiera plus tard de fondateur, on y reviendra, à l'âge de 17 ans. C'est en même temps, dit-elle, ce qui me défigure et ce qui me constitue. Enfin, elle l'écrira plutôt 20 ans plus tard. Elle passe son bac en candidate libre et quitte sa ville natale pour s'installer à Lyon, ville d'élection. Là, elle multiplie les petits boulots à la marge, femme de ménage, prostituée par Minitel, hôtesse de salon de massage, performeuse de peep show, mais aussi vendeuse chez un disquaire, puis pigiste pour des fanzines rock ou encore critique de films porno. Retranchée chez elle, durant quelques semaines, pour soigner une maladie de peau, elle vient en quelques semaines à bout de son premier ouvrage, sans réaliser ou même s'interroger sur ce que peut signifier écrire. À ce livre, au contenu subversif, des pentes donne un titre qui dépote, Baise-moi. Refusé par de nombreuses maisons d'édition, il trouve preneur en 93 chez un nouvel et petit éditeur, Florent Massot. Baise-moi sera d'ailleurs le premier titre au catalogue de cet éditeur. Avant la parution, l'auteur qui vit désormais à Paris choisit son pseudo en référence aux pentes de la Croix-Rousse, quartier lyonnais bien connu, où elle a frayé abusivement. Baise-moi ne tarde pas à produire l'effet d'une déflagration dans le monde de la littérature française de l'époque. Alors en gros, le pitch du livre, si tant est qu'on puisse le résumer, parce que c'est quand même assez fort, on va y revenir, on lira quelques extraits. Nadine se livre à la prostitution pour gagner sa vie et par plaisir aussi. Elle a pour meilleur ami Francis, un toxicomane qu'elle aide à se fournir en dope. Ce dernier se fait assassiner en pleine rue par des inconnus. Par ailleurs, Nadine insupporte sa colocataire. Un soir, elles en viennent aux mains et Nadine l'étrangle. Manu, autre protagoniste du roman, jeune maghrébine, à la langue bien pendue, se satisfait de sa vie. Elle étanche quotidiennement sa soif de baise et d'alcool. Un soir qu'elle se promène avec une autre fille, trois hommes les abordent, les emmènent dans un hangar et les violent. Voilà, c'est le début. C'est le début du roman. Et Ariane, je te propose que tu
lis un extrait. Juste après.
Tu lis juste ce qui vient juste après.
Ouais, ouais.
D'accord. C'est parti, on t'écoute.
Manu ne répond pas tout de suite. Elle sent qu'elle dégoûte Carla encore plus que les mecs. Comment t'as pu faire ça? Quelle connerie. Elle les entend démarrer. C'est fini. Elle répond. Après ça, moi je trouve ça chouette de respirer. On est encore vivante. J'adore ça. C'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire, c'est jamais qu'un coup de queue. Carla hausse le ton, annonce la crise de nerfs. Comment tu peux dire ça? Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leur pauvre vie de branleur et que j'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité. Tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y rentrer. J'y ai rien laissé de précieux.
Donc, premier extrait de Baise-moi. Virginie Despentes enchaîne rapidement en fait, avec un second roman qui s'appelle « Les chiennes savantes » et qui sort chez le même éditeur en 1996. Alors, il est peut-être moins connu, je pense qu'il s'est moins vendu, mais finalement, Paola, tu vas nous lire un extrait assez long parce qu'il est assez symptomatique, on va dire, des thèmes qui traversent toute l'œuvre de Virginie.
Oui, son héroïne s'appelle Louise. Je ne le faisais pas avec les garçons. Je ne voulais jamais le faire, je n'étais pas faite pour ça. Je n'en avais jamais pris la décision, je l'avais simplement toujours su. Ça m'était naturel, enterré loin dedans, évident, solide comme le roc. Ni dans ma bouche, ni dans mon cul, ni dans mon ventre, personne là-dedans, jamais. Dehors moi, tout ce petit monde, je n'étais pas faite pour ça. Je ne l'avais jamais dit à personne, je racontais ce qu'il fallait pour que ça ne se sache pas. Je m'inventais des histoires, ça et là, je prenais soin de glisser quelques sous-entendus, que ça ne se sache pas. Je savais que si j'en parlais, les gens le prendraient mal, ils n'y comprendraient rien. Ils en feraient tous un drame et voudraient discuter. Je les connaissais, les gens. Et avec l'âpreté des imposteurs qui vivent dans la crainte confuse de se faire démasquer, je donnais le change avec application, qu'on me laisse tranquille avec ça. J'avais quelque chose dedans, je le savais, une sale chose bien à moi qui devait rester cachée. J'avais tellement pris le pli de mentir, de dissimuler, je n'y pensais tout simplement jamais, jamais. Ça n'était pas important, ça ne regardait que moi. Même à ce stade de l'excitation, je n'envisageais pas un instant d'aller plus loin. Je savais comment c'était quand on me collait la fièvre et l'envie de le faire, quand j'empoignais quelqu'un. Coller mes mains partout et le laisser faire pareil, la limite bien tangible quand me venait la ferme intention de l'exploser. Jusqu'au moment donné, le moment d'être tout prêt, dès que je sentais une pomme sur moi, dessous l'habit, et ça commençait à cogner. Je me recroquevillais, souffle court, plus très bien. Panique montante, alarme assourdissante, je suffoquais, une peur terrible. Alors les doigts posés sur moi se faisaient menaçants, ou bien la bouche collée à la mienne et faisait monter du vomi. Je ne contrôlais plus rien, basculé, fureur blanche, et je me mettais à cogner. Je pouvais être raide, défoncé et ruisseler comme une chienne juste la seconde avant. Il y avait toujours le moment de déclic où je me mettais à cogner. Je bénéficiais de l'effet de surprise, puisqu'en quelques secondes, j'étais passé du consentement avide à la colère la plus rageuse. Les premiers coups assénés avec le maximum de force me suffisaient pour me détacher. Et les types étaient tellement abasourdis, souffle coupé, plié en deux, parce que je tapais dans l'estomac, dans les couilles et dans les tibias successivement, du plus fort que je pouvais, parce qu'il fallait absolument arrêter ça. Il ne fallait pas le faire. Ces quelques tentatives s'étaient révélées très embarrassantes parce que ce n'était pas évident de se trouver une explication adéquate. Je le tenais donc pour acquis, même pas la peine d'essayer. J'aurais été incapable de dire à quoi ça tenait, je n'y réfléchissais jamais et ça aurait été comme de demander à quelqu'un de décrire comment ça se passe dedans quand il respire et ce qui se passe exactement quand on étouffe. Manque d'air, c'est tout. Insupportable. Même pas la peine. Page 153. La veille, j'étais restée toute la journée chez Mireille, comme un jour de vacances. Victor était un fou furieux de la parole. Il pouvait captiver des heures durant. C'était un garçon doux et drôle, difficile de faire le lien avec sa réputation. Et lui, il avait de l'allure avec les bains qui bougeaient. Et je suis entrée parce que je ne trouvais aucune bonne raison de refuser. Juste une pointe d'appréhension quand les volets se sont refermés derrière moi. Personne ne t'a jamais sauté dessus. C'est juste qu'il en a marre d'être tout seul et que la journée d'hier s'est tellement bien passée. Il ne voit pas pourquoi tu ne prends pas le temps de discuter tranquillement et fumer un spliff avec lui. Respire un peu, laisse-toi tranquille des fois. Fais confiance, ça changera. Les gens ne pensent pas qu'à ça, c'est toi qui ne penses qu'à ça. Je m'argumentais la tête en boucle pour chasser le nœud naissant. Je l'ai suivi jusqu'au fond de l'appartement. Au coin cuisine, sans bien écouter ce qu'il disait, parce que c'était trop pour moi, loin de la sortie et volets clos. Je faisais un effort énorme avec lui, parce que je lui étais reconnaissante de me changer les idées, de parler d'autre chose que de ses emmerdes, authentiquement distrayant, en une saison qui manquait cruellement de légèreté. Je ne me suis approchée trop près qu'une seule fois. Il était face à un placard et je suis passée derrière lui pour m'asseoir à la table de la cuisine. Il s'est retourné, a fait un pas vers moi, j'ai reculé instinctivement, m'a saisi aux épaules, poussé sur la table, une main sur ma bouche et l'autre appuyée, une lame contre la gorge. Le couteau qu'il venait de sortir du placard bien calé à l'angle que fait la gorge avec le menton. J'ai eu l'impression que ça tranchait. Il a écarté mes jambes avec les siennes. J'ai cherché à mordre sa main mais je n'attrapais rien parce que sa paume était bien plate et collée fermement contre mes lèvres, m'empêchait de les ouvrir. Il n'avait pas l'air de faire d'efforts. Il me maîtrisait sans peine et mes jambes battaient l'air, penchées sur moi, souriant, il disait « Et maintenant, qu'est-ce que tu racontes ?» Je sentis le truc céder dans moi. La peur saisissante me grimpait le long des flancs, s'enroulait dedans, et je l'ai repoussé avec toute la force stressée à la terreur, parce que je ne pouvais pas supporter qu'il soit contre moi. Et je me foutais de savoir s'il voulait se servir du couteau pour m'ôter de la peau. Tout ce que je savais, c'est que je le sentais trop près, et je ne supportais pas. S'il ne s'éloignait pas tout de suite, j'allais suffoquer à en crever. Et j'ai réussi à me dégager. Il m'a rattrapée. Je n'avais jamais été en face d'un homme qui cogne comme ça. Et je n'avais pas l'avantage de l'effet de surprise. J'en avais pris un dans la joue. Je sentis mes os se broyer et un second pile au ventre. Son poing bien serré, cogné avec rage et précision. Plié en deux, je suis tombée à la renverse. Il était sur moi de nouveau, avait lâché son couteau et me tenait par les cheveux, toujours souriant. Pas paniqué. Il ne doutait pas une seule seconde de son avantage. J'ai ouvert la bouche pour crier. En me tenant fermement la tête, il m'a tapé contre le sol. « Faut pas faire de bruit. Dis-moi de quoi t'as peur, doucement. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point ?» J'ai encore relevé la tête pour le mordre et mes mains se tordaient, se brisaient contre lui. Et quels que soient les gestes que je faisais, quelle que soit la force que j'y mettais, j'avais la sensation de l'effleurer, d'être parfaitement dérisoire, contenu, facilement contenu. Et plus je me débattais, plus je le sentais lourd et son sourire allait s'élargissant. « Tu te débats drôlement bien. Tu sens ce que ça me fait quand je sens que tu veux pas et que tu cherches à t'échapper. Tu sens ce que ça me fait ?» Et je sentais bien qu'il bandait tellement dur que ça faisait comme s'il avait glissé un objet dans son pantalon. Lutte paniquée, puis une de ses mains est descendue vers mon jean pour défaire le bouton. Je rampais sur le sol, je crapahutais autant que je le pouvais. Je ne gagnais que quelques centimètres et il était de plus en plus lourd sur moi. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il réussisse à descendre mon pantalon, à faire glisser jusqu'à mes chevilles, tirer sur mon slip, l'arracher d'un simple mouvement de poignet, m'écarter les cuisses avec les siennes. Je me débattais tellement et le criblais de coups, et je rampais dessous en essayant de lui échapper. Il s'est aidé d'une seule main, coup de rein, rentré dedans, et je n'ai même pas crié. J'étais tellement sûre que j'allais en mourir. Second coup de rein, longuement après le premier, même brusquerie, comme s'il venait chercher quelque chose au fond. Mouvement de va-et-vient, je sentais ma joue douloureuse et tous les dedans dégueulasses. Chaque bouchée d'air était chargée de son souffle. Et entre les jambes, tu le sens. Dedans, tu le sens bien. Papier de verre qui te déchire les tissus, tu le sens maintenant. Il ne fallait pas venir et tu le savais. Il se frayait une place dedans, creusait son trou. Je le sentais m'écarter, frotter contre, lutter pour me déchirer, va-et-vient, tout doucement, jusqu'au fond et chaque fois. Ça n'avait rien d'une douleur terrible, c'était juste extrêmement désagréable. Et je sentais distinctement qu'il dérangeait des choses dedans et qu'il me cassait, parce qu'il n'y avait pas de place, et celle qu'il prenait m'arrachait les choses à l'intérieur des organes qui m'étaient certainement vitaux et qui l'endommageaient, mutilaient, coudraient, réguliers, me creusaient. Je n'opposais plus aucune résistance. Je sentais que je pissais le sang et son truc dedans me brûlait, râpait, cognait. Il se tenait un peu relevé, me fixait et je regardais de côté. Il est venu bien au fond, s'est calé et a arrêté de bouger et a demandé « Tu as peur ?»« Je t'emmerde. J'espère que tu as bientôt fini. »« T'es rudement serré. C'est pas désagréable, mais t'es vraiment serré. Tu te demandes si ensuite je vais te faire du mal ?» À vrai dire, je m'en fous. J'attends que tu ressortes maintenant que tu y es. Moi, je veux que tu aimes ça. » Ça le faisait sourire. Et de la même façon qu'il n'avait pas douté un instant qu'il pouvait me le faire force, il ne se doutait pas un instant qu'il pouvait réussir à me le faire aimer de force. J'ai essayé de me dégager encore une fois, et il m'attrapait par les hanches, cloué au sol. « Arrête avec ça, ou je vais finir par te massacrer. » Mais ça n'avait plus tellement d'importance. Des années que t'en fais toute une histoire. Finalement, ça n'a rien de si terrible. Il est dedans maintenant, mais qu'est-ce que tu t'imaginais que ça allait te transpercer le cerveau? C'est juste que t'es en train de te vider de tout ton sang. Une hémorragie? Tu sens en bas comme ça fait mal? Fallait pas venir. C'est plus le moment de se plaindre et ça fait pas si mal. Alors Victor a posé sa bouche sur la mienne et j'ai senti sa langue devant ma bouche. J'ai mordu de toutes mes forces et j'ai senti son sang et sa main s'abattant sur ma tempe. Il s'est dégagé et m'a frappé encore, et je n'avais plus assez de force pour me battre, et j'ai vu qu'il souriait encore. Il ne s'était visiblement rien passé qui justifie le moindre flottement dans l'attitude. Le coup d'œil changeait quand même, et on ne m'avait jamais regardé comme ça. À croire qu'il m'avait pissé dedans pour marquer son territoire, et je sentais ça direct au ventre, que je l'ai voulu ou non, un lien solide. Et bien réel. C'était une grande colère qui s'élançait en moi sans me franchir le bord des lèvres, en même temps qu'un grand trouble. Je ne disais rien. Et tu n'as rien à dire parce que tu savais bien que ça pouvait arriver et tu es venu quand même. Aucune raison de te plaindre. Trop tard. Il est venu face à moi, toucher ma joue en disant « D'ici demain, elle sera bien noire. Tu fais la gueule ?» C'était la seule façon avec toi. Tu le voulais. Je savais que tu voulais aussi, et je savais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ton enjoué, assurance tendre et amusée, je me suis sentie stupide à rester immobile, sans un mot, prostrée sur le canapé. Et surtout, il était furieusement près, dangereusement près de moi, je me suis secouée. Je vais partir à ta place, je ferai pareil avant que Mireille revienne. Où t'es allée chercher cette voix de merdeuse ébranlée? Arrête avec ça! Parce que ce n'était même pas si terrible. C'est dans ta tête que ça cogite trop. Il n'y avait même pas une seule putain de goutte de sang. Alors lève-toi et arrache-toi. Page 64. Alors, comment ça tu m'en veux? Je me suis reculée, mais c'était une réaction vide. Ça ne basculait pas dedans, comme ça l'avait toujours fait. Il m'a empoigné à nouveau et tenu contre lui, le sourire revenu, le sourire de quand il était dedans. « Tu vas la jouer pétasse comme ça combien de temps? Je vais rester chez Mireille parce que c'est le plus pratique et toi, je vais te revoir dès demain parce que t'en crèves d'envie que je m'occupe de ton cas. Tu crois réellement que je vais revenir demain ?» Et je n'avais jamais parlé à quelqu'un d'aussi près. Le truc était cassé. Le truc qu'il ne voulait pas de façon tellement terrible. Cette chose forte comme le roc était fracassée une fois pour toutes et il m'avait arraché, déchiré et soulagé du plomb.
Bon, comme on disait, c'était un long extrait.
C'était un long extrait. Thank you.
musique.
C'était We Are Enfants Terribles, Filthy Love.
Pourquoi ah cette, oui. cette, cette, ouais. Ça fait du bien.
Mais
quand
j'ai ça entendu ça,
hein.
Je sais pas où. We Are Enfants Terribles.
Oui. Bah rien que le nom du groupe, je trouve ça plutôt sympathique. Non
bah ouais, c'est vachement bien. Mais en plus, c'est bien ce qu'ils font.
Bah oui, c'est bien. Mais je sais pas, Paola me regarde avec un air interloqué. Donc,
non, mais moi, tu sais, je connais rien à la musique moderne.
Quant aux commentaires d'Annie, je les attends encore.
J'ai dit, ça fait du bien quand ça s'arrête. Non, mais Enfants Terribles, c'est un joli titre de roman. Dommage qu'on fasse de la musique avec. Surtout quand on ne sait
oh
pas
là
chanter.
Là. Oh, dis donc, tu t'es bien placé pour dire ce genre de choses, je trouve.
Ouais.
Salut, les pédés.
Voilà, Tao, notre technicien préféré, nous ramène dans le droit chemin.
La
réalité, dans le droit chemin. Virginie Despentes, puisqu'on parle d'elle, on continue sa bio. Allez, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on en est au troisième roman, après les extraits franchement intéressants que nous a lu Paola du deuxième, qui s'appelait donc Les chaînes savantes. On y reviendra, puisqu'on on abordera Virginie Despentes dans d'autres émissions sous de façon transversale, on va dire.
Par entrée thématique.
Donc, suite à ce roman en 96, elle en publie un troisième assez rapidement. Elle est assez régulière quand même hein, dans son écriture, mine de rien. Et donc, en 98, paraît aux éditions Grasset, puisque son éditeur Florent Massot, son premier éditeur, en fait, disparaît. Donc, elle rejoint les éditions Grasset et elle y publie son troisième roman, donc Les Jolies Choses. Un roman que Despentes déclare avoir écrit très rapidement, en 3 ou 4 jours, dit-elle, un peu pressée par les délais de son éditeur, sous influence de la cocaïne. Et en fait, ce roman reçoit la même année le prix de Flore. En gros, l'histoire, débarquée de province avec l'intention de se faire une place au firmament du showbiz, Lucie use de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle se lie d'amitié avec Nicolas, un compositeur, mais sa voix n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Quand la possibilité d'enregistrer un disque se présente à elle, elle fait appel en fait au talent de chanteuse de sa sœur jumelle, Marie, avec laquelle elle est pourtant en froid. Un soir, après l'avoir remplacée sur scène, Marie retrouve Lucie morte, défenestrée, donc elle endosse l'identité de la défunte. L'ouvrage en fait est adapté dans la foulée au cinéma par Gilles Paquet-Brenner avec Marion Cotillard et Stormy Bugsy dans les rôles principaux. Et le film sort, je crois, en 2001. C'est ça, Ariane, toi qui es spécialiste.
Je suis nulle en date, mais ce que je peux compléter à propos de cet ouvrage-là, c'est que le titre provient d'une critique qui lui a été faite autour de la sortie de Baise-moi. Donc, il y a un critique littéraire qui avait dit que les filles étaient faites pour faire des jolies choses. Et que, enfin bon, c'était pour disqualifier.
Les jolies femmes avec des jolies. Que les films devaient être faits avec des jolies femmes qui disent des jolies choses.
Voilà, donc on n'a pas le droit de dire ou faire des choses qui sont réservées aux hommes, c'est bien connu. Et donc elle a gardé l'expression et moi, ce que j'ai retenu comme thème, puisque la drogue, ça ne m'intéresse pas trop, ce que j'ai retenu comme thème dans ce bouquin, c'est les regards sur la féminité. Parce que donc on a deux sœurs qui sont physiquement. Qui pourraient sembler identiques, qui ont reçu la même éducation, ayant strictement le même âge, etc., et qui pourtant sont dans un rapport à leur corps et à la performance de genre, on va dire, complètement diamétralement opposés quelque part. Et donc, l'une se faisant passer pour l'autre, il y a toute cette démarche de... il y a des détails, je sais pas, sur l'épilation, quoi, des trucs vraiment très terre-à-terre et en même temps qui disent énormément de choses de ce que ça peut être comme pour les unes normales et pour d'autres, une torture, quoi.
L'adaptation cinématographique, fidèle au livre.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai recherché des extraits. Et j'avoue qu'au niveau du niveau de langage, du côté du niveau de langage que j'ai pu observer dans les extraits, j'avais peur que ce soit édulcoré. Et de ce que j'ai vu, c'est... Mais enfin, j'ai envie de voir ça, je veux dire. Parce qu'après, il y a aussi... Ophélie Winter, quoi, là-dedans. J'ai envie de...
Il y a Ophélie Winter.
Ouais, si, je te jure. Bref, donc il y a des trucs, je pense que ça me ferait bien rigoler par rapport aux images que moi j'ai développées dans ma tête, parce que ça se passe à Paris, donc il y a un certain nombre de lieux qui me sont familiers. Et voilà, les atmosphères des lieux sont dépeintes avec un côté extrêmement vivant et charnel, donc je me demande ce que ça donne en film.
Bon, à voir peut-être.
Ouais. En attendant, on peut toujours regarder l'imitation d'Ophélie Winter par Tao en régie, qui vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Ça sera le mot de la fin pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, deuxième partie de la bio de Virginie Despentes. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
SLP, si tu es sage, on va recommencer.
Je raconte une histoire d'amour. Au printemps, un rossignol se pose sur un cerisier. Le cerisier dit au rossignol, « Ouvre tes bourgeons, fleuris avec moi. » Le rossignol dit au cerisier, « Ouvre tes ailes, vole avec moi. »
Ils sont bien partis, tes mecs. Tous les paumés qui se marient sont pareils. Tous aussi bien assortis. Casserole, cheval, poisson, raton, doigts de pied, bigoudi. Et chacun des deux pense qu'à friser l'autre ou à le faire entrer dans sa godasse.
Je raconte la fin de l'histoire. Alors le rossignol ouvrit ses bourgeons et fleurit. Et le cerisier ouvrit ses ailes et s'envola en apportant le rossignol.
Et qu'est-ce que c'est ? Une fable ?
C'est l'amour.
Oh, wow.